France Culture.
On fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Et l'on fera le point tout d'abord sur cette conversation téléphonique hier soir entre Donald Trump et Vladimir Poutine, au cours de laquelle les deux dirigeants se sont dit prêts à lancer des négociations sur la fin de l'offensive russe en Ukraine. On se rendra justement en Ukraine où la population a forcément le sentiment d'avoir été trahie par l'allié américain. Et puis avec notre correspondant à Bruxelles, cette fois-ci on tâchera de savoir si les Européens sont en capacité de se faire une place ou non dans ces discussions à venir. Nous serons également en Allemagne, évidemment, après qu'une voiture a foncé ce matin sur un groupe de personnes dans les rues de Munich, faisant une vingtaine de blessés, mais sans que l'on puisse encore qualifier à cette heure la nature exacte de cet acte. En France, on reviendra sur cette affaire pédocriminelle au collège Bétarame, un scandale qui depuis quelques jours éclabousse. Désormais, François Bayrou, dont la carrière et la vie personnelle sont reliées au destin de cet établissement catholique béarnais. Enfin, on parlera lutte contre l'antisémitisme avec notre invitée aujourd'hui, la ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Berger. C'est très certainement le moment que les Ukrainiens d'abord et les Européens ensuite redoutaient le plus ces derniers mois, que l'investiture de Donald Trump marque l'avènement d'une réalité nouvelle et cruelle pour Kiev, la fin de la politique de soutien de Washington. Mais pas seulement, la fin aussi des efforts occidentaux pour isoler diplomatiquement Vladimir Poutine. Hier, à l'issue d'un entretien téléphonique, le président américain s'est vanté d'avoir noué un dialogue constructif avec son homologue russe, avant d'annoncer, après 3 années d'une guerre acharnée, être convenu de lancer des négociations immédiates sur l'Ukraine, simple comme un coup de fil. Alors ce n'est pas seulement le style volontiers démonstratif du milliardaire américain qui aura permis de briser la glace avec l'air mystérieux, impassible en toutes circonstances de l'ancien membre du KGB russe. Non, ce dégel extraordinaire des relations entre Washington et Moscou vient tout simplement de ce que Donald Trump, pressé de lâcher l'Ukraine, quitte à contrarier le vieux continent, se dit prêt aujourd'hui à fermer les yeux sur les annexions de Moscou au nom d'un deal censé mettre fin à la guerre. Alors, le locataire de la Maison-Blanche a fait savoir qu'il rencontrerait le maître du Kremlin en Arabie Saoudite et indiqué par ailleurs que Volodymyr Zelensky ne participerait pas à ces discussions initiales. Marquons là aussi un changement de cap majeur, non seulement parce que les États-Unis et l'Europe faisaient jusqu'à présent front commun pour qu'aucune négociation n'ait lieu sans l'Ukraine, et ensuite parce que durant des années, Volodymyr Zelensky a déclaré que son pays se battrait jusqu'au bout pour chaque centimètre de territoire saisi par les forces russes. Comment cette nouvelle a-t-elle été accueillie justement par les Ukrainiens? Nos envoyés spéciaux Agathe Mahuet, Yachar Vassilov et Laurent Macchietti se sont rendus ce matin dans les rues de Dnipro.
Olia soupire immédiatement à l'idée de ces échanges entre Moscou et Washington.
Sans les Ukrainiens, ce n'est même pas la peine de lancer ces négociations. Notre pays doit y participer activement. Ce n'est pas possible autrement.
Elle a quitté en avril 2022 sa ville de Mélitopol, occupée par les Russes. Olia dit que tout le monde ici veut la paix, mais pas à n'importe quel prix. Et pas sans les Européens non plus, ajoute Vitali.
L'envie de Trump de tout résoudre lui-même en laissant l'Europe à l'écart, ce n'est pas acceptable. On dit qu'il faut juger sur pièce, mais là, vu le comportement de Trump, je ne sais pas comment ça va finir. C'est quelqu'un de complètement imprévisible. En plus, il s'en fout de l'Ukraine et de ce qui se passe ici. Ce n'est pas son problème.
Quelle paix, quel territoire, c'est toute la question, confirme Yulia. Impossible pour elle d'imaginer un cessez-le-feu aujourd'hui qui figerait les positions militaires et dessinerait de nouvelles frontières.
C'est très difficile d'admettre que nos proches, là-bas, vont rester de l'autre côté, comme derrière le mur.
Elle essuie une larme et répète que cette perspective est très dure psychologiquement.
Voilà, reportage à Dnipro, donc signé Agathe Mahuet. Alors après cette annonce de Donald Trump, dans un premier temps, les Européens n'ont pas semblé savoir comment réagir. Et puis, dans la soirée, les chefs des diplomaties de 6 pays ont fini par lever le doigt pour rappeler que Kiev devait participer à toute négociation et bénéficier de solides garanties de sécurité pour une paix à la fois juste et durable. Seront-ils entendus? Pour l'heure, tout porte à croire qu'ils ne seront que 2 autour de la table des négociations, Trump et Poutine. Fabien Cazot, bonjour.
Bonjour.
En direct de Bruxelles, est-ce que les Européens, Fabien, ont les moyens aujourd'hui de faire entendre leur voix ?
Eh bien, en tout cas, ils la font entendre ce midi pour déplorer l'initiative américaine d'hier. Les Européens se sont sentis ni plus ni moins court-circuités, d'autant que Donald Trump et Vladimir Poutine ont poussé assez loin le détail dans leur discussion. C'est précisément ce qui inquiète le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius.
Bedauerlich ist, und das sage ich auch,
Il est regrettable que l'administration Trump ait déjà fait des concessions publiquement à Vladimir Poutine avant même que les négociations ne commencent. Selon moi, il aurait été préférable de discuter d'une éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'OTAN ou de possibles pertes de territoire à la table des négociations plutôt que de le faire maintenant.
Le secrétaire d'État à la défense américain Pete Hegseth, qui est à Bruxelles aujourd'hui, a de son côté tenu à balayer toute accusation de trahison, estimant notamment que le monde et les Européens ont beaucoup de chance d'avoir un négociateur de paix comme Donald Trump.
Aucun pays, comme le président Trump l'a relevé, ne s'est engagé autant pour l'Ukraine que les États-Unis. Nous avons investi 300 milliards de dollars pour stabiliser le front après l'agression russe. Il n'y a aucune trahison là-dedans.
Les Américains et les Européens sont donc réunis jusqu'à ce soir au siège de l'OTAN, leur alliance de l'Atlantique Nord, à la veille d'une conférence internationale sur la sécurité à Munich qui abordera évidemment le dossier ukrainien.
Merci Fabien Cazot, en direct de Bruxelles.
Une importante opération policière est toujours en cours dans les rues de Munich.
Oui, ce matin, une voiture a percuté un groupe de personnes faisant plusieurs blessés. Pour l'heure, les autorités bavaroises n'ont pas donné beaucoup plus de détails sur cet acte dont on notera malgré tout qu'il intervient quelques heures seulement. Fabien en parlait à l'instant avant une conférence sur la sécurité censée rassembler tout le gotha de la diplomatie mondiale et puis à moins de deux semaines aussi d'élections législatives anticipées dont la campagne a été émaillée, on le sait, par plusieurs attaques meurtrières à travers le pays. Sébastien Bayer, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Correspondant de France Culture en Allemagne, quels sont les derniers éléments de l'enquête, Sébastien?
Ce que l'on sait, Thomas, c'est que cette voiture a foncé dans le cortège de manifestants qui étaient rassemblés sur la Königsplatz. Nous sommes là dans le centre de Munich. C'est une zone qui est située entre la gare centrale et la vieille ville. Et c'est un secteur très fréquenté, encore plus fréquenté ce matin à 10h30 quand cet événement est survenu. Car se déroulait à ce moment-là un rassemblement du syndicat allemand des services Verdi. La police de Munich indique sur son compte X que le conducteur a été interpellé, qu'il ne représente désormais plus de menaces. Selon les premiers éléments, cet homme jeune aurait accéléré au moment où il approchait de la foule. Les enquêteurs vont maintenant tenter de déterminer si l'acte était ou non délibéré. Sur les images qui sont diffusées sur les réseaux sociaux, on voit ce véhicule. C'est une Mini Cooper de couleur crème immobilisée au milieu de la chaussée, le pare-brise avant fissuré. La police de Munich a communiqué un premier bilan. 20 personnes blessées, dont au moins 2 sont en danger de mort. Le journal Bild évoque, lui, plusieurs enfants parmi les victimes. La police a aussi lancé un appel et demande aux témoins de transmettre leurs éventuelles photos et vidéos. La capitale bavaroise, vous l'avez dit Thomas, qui doit accueillir à partir de cet après-midi et jusqu'à dimanche des responsables politiques du monde entier à l'occasion de cette conférence annuelle sur la sécurité où il sera évidemment beaucoup question de la situation en Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le vice-président américain J.D. Vance notamment doivent arriver en Allemagne, à Munich, en fin de journée.
Merci Sébastien Baer en direct de Berlin. Après que le Hamas a menacé de ne pas procéder aux libérations d'otages prévues samedi, accusant notamment Israël de plusieurs violations de l'accord, de la trêve, et après que l'État hébreu, soutenu par son allié américain, a menacé de reprendre la guerre dans la bande de Gaza, ça peut dire que le cessez-le-feu dont les phases ultérieures restent toujours à négocier apparaît désormais plus fragile que jamais. Deux sources palestiniennes proches des discussions en cours avec les médiateurs font toutefois état ce matin de progrès susceptibles de sortir de la crise. Alors on le sait depuis l'attaque barbare des terroristes du Hamas suivie de la guerre de représailles totale menée par l'État hébreu. Ce conflit israélo-palestinien s'est très largement exporté hors des frontières du Proche et Moyen-Orient et en particulier en France où depuis le 7 octobre 2023 les actes à caractère antisémite restent à un niveau historique pour la deuxième année consécutive, 1676 au total relevés en 2023 et encore 1570 en 2024. Et face à cette recrudescence, après une première initiative l'an dernier dont les travaux avaient été interrompus par la dissolution de l'Assemblée, eh bien le gouvernement a relancé ce matin les assises de lutte contre l'antisémitisme. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Aurore Berger, ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Bonjour madame.
Bonjour.
Je le disais en introduction, depuis donc les attaques du 7 octobre 2023, les actes antisémites se sont démultipliés en France. Diriez-vous que l'antisionisme est devenu aujourd'hui la nouvelle forme de l'antisémitisme ?
Ce matin, on relançait, vous l'avez dit, les assises de lutte contre l'antisémitisme. J'ai donné la parole à des jeunes qui, malheureusement, ont à subir l'antisémitisme au collège, au lycée, dans leurs universités, dans leurs écoles. Et eux, ce qu'ils entendent, c'est « sale juif ». Et c'est aussi génocidaire, c'est sale sioniste, c'est des tags, c'est des insultes, c'est du harcèlement, c'est des boucles WhatsApp qui s'enflamment, c'est le fait qu'ils sont pris pour cible, c'est cette essentialisation. Tu es juif, donc tu es responsable de la situation à Gaza, donc tu soutiens le gouvernement de Benjamin Netanyahou, comme si ils étaient responsables d'une quelconque manière par rapport à ce qui peut se passer, oubliant d'ailleurs le point de départ sur les attentats terroristes. Donc il y a cette vraie question qui se pose sur ce qu'est devenu aujourd'hui l'antisémitisme et la manière de le définir. C'est pour ça que j'ai demandé à des magistrats, à des avocats, à des professeurs de droit public de travailler dans 2 mois, de nous rendre leurs travaux pour dire est-ce que oui ou non, il faut changer la définition qui est celle de l'antisémitisme pour garantir de mieux protéger celles et ceux qui aujourd'hui en sont les victimes et
c'est
de mieux
ça,
sanctionner.
C'est ça le but de ces assises. Qu'est-ce que vous en attendez concrètement?
Déjà, c'était leur donner la parole. Parce que je pense qu'on ne tend pas assez l'oreille, qu'on ne les entend pas suffisamment, celles et ceux qui aujourd'hui, parce qu'ils sont juifs et qu'ils sont en France, subissent cet antisémitisme et ce sentiment de solitude. Moi, c'est ça qui me frappe. Ces jeunes, ils se sentent seuls. Ils se sentent seuls à vivre l'antisémitisme. Ils disent, voilà, on ne s'assoit plus à côté de moi dans un amphi. On ne veut plus être sur la même boucle WhatsApp que la mienne. On ne veut plus faire un TD avec moi. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Je suis juif. C'est la seule raison, c'est-à-dire leur identité, réelle ou supposée d'ailleurs, parce qu'un nom à consonance juive, parce qu'avoir des amis juifs, et c'est ça qui devrait nous révolter, tout simplement en tant que citoyens, de considérer que c'est juste absolument inacceptable et intolérable. Et ça interroge, ça interpelle quand même, de se dire qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on laisse seul ces enfants, ces adolescents, face à cette vague d'antisémitisme.
Cet acte 2 donc des assises est effectivement assez largement consacré à la jeunesse. Il faut dire que les actes donc à caractère antisémite se multiplient, notamment à l'école. Est-ce qu'en abordant la notion de l'antisémitisme par la Shoah uniquement ou presque, les programmes scolaires ne peinent pas aussi peut-être à poser cette question au présent ? Auprès des élèves.
Oui, vous avez raison. Alors, il y a à la fois la nécessité quand même de continuer à transmettre notre histoire, parce qu'aujourd'hui, vous avez 1 jeune sur 20 qui pense que la Shoah est une invention. 1 sur 20, ça veut dire que quand vous entrez dans une salle de classe, vous avez 1 à 2 enfants, 1 à 2 adolescents qui se disent « la Shoah n'a pas existé ». Les Juifs ont inventé la Shoah. Donc il y a quand même cette nécessité de se dire que cette mémoire-là, elle ne peut pas être effacée, occultée, oubliée. Par contre, est-ce qu'elle est suffisante ? Non. La transmission de cette mémoire ne suffit pas à lutter contre l'antisémitisme. Donc ça pose la question de comment on doit l'enseigner, comment on doit sensibiliser et comment on doit à un moment refaire un peu société et se sentir fraternel. C'est-à-dire qu'on a cette nécessité-là. Comment c'est possible qu'on passe à côté les uns des autres et qu'on se sente pas concerné par la souffrance de l'autre? Parce que c'est ça la question qui est posée par l'antisémitisme, c'est ça la question qui est posée par le racisme, par les formes de haine. Si on dit, en fait, comme moi-même je suis pas concerné, ben, c'est pas mon affaire. Et ça doit nous concerner, ça doit être notre affaire.
Cette multiplication des actes à caractère antisémite, c'est aussi une réalité au sein de l'enseignement supérieur. Au printemps dernier, c'était en avril, je crois, 70 présidents d'établissements avaient signé un texte pour s'ériger contre les instrumentalisations politiques des accusations de laxisme qui leur étaient faites. Et de la même manière, nombre de chercheurs s'alarment aujourd'hui de voir les accusations d'antisémitisme se multiplier dans les discussions, empêcher l'échange apaisé d'arguments contradictoires, au risque de restreindre donc la possibilité même de formuler certaines analyses critiques. Comment faire, Aurore Berger, pour que le volontarisme politique que vous portez ne puisse pas être dévoyé pour concourir à la généralisation d'un soupçon d'antisémitisme?
Je pense qu'il faut être très clair et différencier les choses. Il y a une liberté d'expression, il y a une liberté du débat public, celui que vous animez ici dans les médias, celui qui doit pouvoir exister sur nos campus. Et cette liberté, elle doit pouvoir être protégée et préservée. Et on a le droit, si on en revient à la question du conflit israélo-palestinien, d'avoir un avis libre, argumenté, sur la politique menée par le gouvernement de Benjamin Netanyahou. C'est pas ça la question. La question, c'est que quand on empêche les étudiants d'accéder à un campus, quand on empêche les étudiants d'accéder à un amphi, quand on les harcèle uniquement parce qu'ils sont juifs, là, c'est pas du débat. C'est un délit. Et c'est insupportable. Est-ce qu'on accepterait, nous, en tant que parents, de voir nos gamins soumis à ces pressions-là, soumis à ce harcèlement-là, à tel point qu'on a des enfants qui nous disent « je veux plus y aller ». Je veux plus y aller. Et des parents qui sont viscéralement attachés à l'école publique et qui me disent, mais du coup, je fais quoi? Est-ce que je dois retirer mes enfants pour qu'ils soient mieux protégés? Et ça, on peut pas accepter cette renonciation collective de se dire qu'en fait, l'école de la République ne protégerait pas nos enfants, que l'université ne serait plus un lieu de savoir et de débat, mais un lieu de harcèlement. Donc, il faut évidemment s'en prémunir, agir, soutenir les enseignants qui agissent dans un pays où les enseignants sont pris pour cible et ont été pris pour cible.
En quelques mots, sont-ils assez bien formés, assez bien accompagnés ?
Je pense que ça nécessite sans doute de réactualiser, c'est ce que vous disiez, sur la manière avec laquelle on enseigne, la manière avec laquelle on délivre des savoirs pour que ce soit le plus pertinent possible. Et puis, parce que les enseignants, ils sont mis en concurrence avec des savoirs ou avec surtout beaucoup de désinformation. Et c'est ça aussi qui perturbe de manière manifeste la manière avec laquelle on enseigne. Quand en quelques clics, vous avez accès à tant de désinformation. Regardez ce qui s'est passé pendant le Super Bowl, où une des personnalités les plus connues au monde a mis en vente un t-shirt avec une croix gammée. Et on accepte ça. Donc il ne faut pas l'accepter, il faut que ça nous révolte et surtout il faut qu'on agisse.
C'est bien compris. Merci, Aurore Berger, donc ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Louise Guérin pour la préparation.
Midi et 45 minutes sur France Culture, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
C'est une affaire et même un scandale qui s'étale sur plus d'un demi-siècle d'effets présumés d'agressions, de viols, mettant en cause plus de 20 adultes au collège lycée Notre-Dame de Bétarame entre les années 70 et 2000. Depuis un an, le parquet de Pau a ouvert une enquête. 112 personnes au total se sont déclarées comme victimes auprès de la justice. Or voilà que cette affaire a pris une nouvelle dimension après que le Premier ministre et maire de Pau, François Bayrou, a été accusé par le site d'investigation Mediapart d'avoir été informé de ces faits sans les dénoncer, ce qu'il conteste fermement. Jeanne Serrin, bonjour.
Bonjour.
Pour bien comprendre, il faut revenir sur la chronologie des faits et l'ouverture, notamment, donc, Jeanne, il y a un an, d'une enquête préliminaire par le parquet de Pau.
Oui, à la suite du dépôt le 31 janvier 2024 de 20 premières plaintes pour des faits de violence physique et sexuelle. Un dossier qui s'est depuis bien épaissi, puisqu'aujourd'hui, 112 personnes se sont déclarées victimes. 72 d'entre elles ont déposé une plainte. 50 sont à caractère sexuel, selon le parquet. Elles concernent des jeunes garçons, en grande majorité, âgés de 8 à 13 ans au moment des faits. 23 personnes sont en tout accusées, prêtres et surveillants, dont 3 d'entre eux sont respectivement mis en cause par 59, 23 et 17 plaintes. Après avoir mené près d'une centaine d'auditions, la justice doit désormais se prononcer sur l'ouverture ou non d'une information judiciaire pour les faits non prescrits.
Et dans cette affaire, Jeanne, la chronologie des faits, là encore on y revient, croise à plusieurs reprises celle en l'occurrence de la vie personnelle et de la carrière de François Bayrou.
Oui, bien que le Premier ministre répète qu'il ignorait tout de ces plaintes, de nombreuses archives exhumées mettent en cause cette version. Des lettres de victimes lui étant adressées, mais aussi des affaires médiatisées, deux dates en particulier. 1996, une première plainte est déposée à l'encontre d'un surveillant pour coups et blessures volontaires sur un adolescent qui se trouvait dans la même classe que le fils de François Bayrou, scolarisé dans l'établissement. Sa femme également y enseignait le catéchisme. En mai 1996, alors ministre de l'Éducation nationale, François Bayrou se rendra dans l'établissement, un déplacement suivi par la presse locale. Il y déclare que des vérifications ont été favorables et positives. Deux ans plus tard, en 1998, une autre plainte vise cette fois-ci le prêtre, directeur de l'institution, accusé d'avoir violé deux élèves. Interrogé par Mediapart hier, le juge d'instruction de l'époque révèle que François Bayrou a demandé à le rencontrer après l'ouverture de l'information judiciaire. Il se disait inquiet, n'a pas cherché à briser le secret de l'instruction, se souvient le juge, mais semblait vouloir confirmer ce qui se disait déjà partout dans la presse.
Merci Jeanne Serrin. Alors effectivement, les informations de Mediapart ne plaident pas franchement en faveur de l'ignorance du Premier ministre dans cette affaire. Et pourtant, cette semaine, devant la représentation nationale, François Bayrou a donc assuré qu'il n'était au courant d'aucun fait. Ce matin, à l'issue du Conseil des ministres, la question a été posée à nouveau. Je vous propose d'écouter la réponse de la porte-parole du gouvernement.
Ma première pensée va aux personnes qui ont témoigné ou qui vont témoigner et qui, en toute vraisemblance, ont été l'objet de violences sexuelles ou pas sexuelles, mais en tout cas, mes pensées vont vers eux. Deuxièmement, le Premier ministre s'est exprimé par deux fois à l'Assemblée nationale, s'est exprimé hier au Sénat. Je n'aurai aucun commentaire supplémentaire, évidemment, ici dans ce compte-rendu. Troisièmement, ce point n'a pas été évoqué en Conseil des ministres ce matin. Et quatrièmement, je voudrais rappeler qu'une plainte pour diffamation a été déposée par le Premier ministre. La plainte va donc suivre son cours.
Elle a été déposée ?
Je ne sais pas. Elle va être déposée ou elle a été déposée. Mais il l'a dit clairement, donc je n'ai pas de raison de mettre en cause ça.
Voilà, la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, à l'issue du Conseil des ministres ce matin. Et puis j'ajoute, on vient de l'apprendre, donc la voiture sur la foule qui a percuté plusieurs personnes à Munich ce matin a fait 28 blessés, que le conducteur serait un demandeur d'asile afghan de 24 ans et que le gouvernement de Bavière parle désormais d'un probable attentat. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Mélange d'averses et d'éclaircies sur la plupart des régions, à l'exception du Golfe du Lion. Le soleil brillera généreusement. Quant aux températures, elles seront comprises entre 3 et 15 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Héloïse Roger pour le prochain journal de la rédaction.